Bonjour à tous. Ce matin, j'avais un message à cœur qui m'est venu pendant que j'étais en train de regarder une sorte de petit documentaire récemment, il n'y a pas très longtemps de ça, où c'était un chercheur en sociologie, je crois, ou quelque chose comme ça, qui aime bien étudier un petit peu comment se comportent les foules. Et là, il voulait étudier comment se comporte un groupe de personnes quand on leur confie une tâche à faire. Comment est-ce que les gens s'organisent pour arriver à faire le travail qu'on leur a demandé. Et en général, vous aviez rapidement un leader là, qui émergeait du groupe. Et puis, plus le groupe était important, plus on voyait une organisation qui se mettait en place avec une sorte de chef, des sous-chefs, et puis des gens qui exécutaient un petit peu toutes les petites tâches derrière. Et ce type d'organisation, je pense que ça ne vous surprend pas, c'est assez naturel chez nous. On le trouve un peu partout, que ce soit dans l'armée avec les grands généraux en haut, puis tous les grades d'officiers, de sous-officiers jusqu'aux soldats. On le trouve dans le gouvernement d'un pays, hein, que ce soit un pays démocratique ou même une dictature, en général, vous avez un chef d'État en haut, vous avez des ministres en dessous, ainsi de suite. On le trouve même dans les entreprises avec le chef d'entreprise à la tête, puis différents niveaux de manager, etc. Et un peu toutes les organisations humaines, même religieuses, souvent elles obéissent à ce genre d'organisation-là. C'est un type d'organisation comme ça qui est pyramidal et qui est assez naturel, parce que même on le trouve dans la nature, chez beaucoup d'animaux, hein, chez beaucoup notamment de mammifères qui vivent en groupe. Souvent vous avez un individu là, qui est à la tête du groupe, puis secondé avec d'autres qui lui sont soumis, et puis c'est comme ça qu'ils conduisent un peu tout le groupe. Et si vous discutez avec les biologistes, eux, ils vont vous trouver toutes sortes d'explications, de raisons pour lesquelles c'est intéressant pour le groupe d'être comme ça. Mais à la fin de la vidéo, il y a un truc qui m'a interpellé un peu, c'est que ce chercheur il nous dit « mais ce n'est pas la seule organisation qui existe ». Et on trouve notamment chez d'autres animaux une organisation qui est beaucoup plus horizontale. Tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de chef. Et notamment, ça se trouve chez des insectes qui vivent en colonie. Est-ce que vous avez une idée du genre d'animal auquel je pense? Les fourmis, c'est bien. Luc avait prêché sur le sujet, justement. Bon, ça commence à faire un petit moment, c'était il y a presque un an, c'était à la rentrée. Donc on va faire une petite révision. Mais là, du coup, à la fin de l'expérience, le chercheur, justement, avait ajouté une contrainte pour interdire de mettre en place ce type d'organisation. Et puis, ils ont réussi quand même à s'en sortir, ils ont quand même réussi à faire la tâche qui leur était confiée. Et il expliquait justement que ça se trouvait chez des animaux comme notamment les fourmis. Donc on va réviser, on va relire le petit passage sur lequel avait prêché Luc au mois de septembre. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, si on lit les versets 6 à 11. Donc là, Salomon s'adresse à nous en disant « mais va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. » La façon dont les fourmis elles se débrouillent pour prendre soin de toute leur colonie, ça a l'air assez différent quand même de notre façon à nous de nous organiser. Hein. Elle n'a ni inspecteur, ni chef, ni supérieur. Et ce qui est bizarre, c'est justement que Dieu nous ait donné cet exemple. Parce que si on regarde à d'autres endroits dans la Bible, Dieu a l'air d'instaurer quand même une certaine hiérarchie dans l'Église, une certaine organisation. Alors, comment ça se fait qu'on a ces deux visions-là qui peuvent s'opposer potentiellement dans la Bible ? Déjà, on va se pencher sur le cas de ces fourmis, justement. Lorsqu'on a une tâche à exécuter, lorsqu'on a un projet, si la tâche est toute petite, c'est pas compliqué, on se pose pas de questions, on fait ce qu'on est censé faire. Mais si ça commence à devenir un peu plus important, on découpe en tâches plus petites, même tout seul, en général, on se découpe. Alors, si je veux arriver à construire l'extension de l'église, il va falloir déjà couler la dalle, il va falloir monter les murs, il va falloir faire le toit. On découpe ça en plein de petites tâches. Et puis, quand on est un groupe, on répartit ces tâches entre tout le monde. Mais chez les fourmis, comme le souligne Salomon, il n'y a personne qui répartit les tâches. Personne qui divise le travail là entre les membres pour dire « toi, tu vas aller construire une galerie de ce côté, toi, tu vas aller chercher un peu de la nourriture. » et personne ne vérifie que chacun fait bien ce qu'il est censé faire. Dans le monde des fourmis, il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de clan, il n'y a pas d'hierarchie du tout. Et pourtant, on constate bien que toutes les fourmilières du monde, elles fonctionnent à peu près correctement. Elles arrivent à se débrouiller, elles arrivent à faire ce qu'elles sont censées faire. Alors comment elles font ? D'une manière qui est très simple en fait, c'est que chaque fourmi, elle se contente de prendre une tâche qui lui semble nécessaire dans la colonie et que personne d'autre ne fait. En fait, chacun fait ce qu'il reste à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un chef, il n'y a pas besoin de donner des consignes. Chacun est libre de s'organiser comme il veut et il se laisse juste guider par le travail qui n'a pas encore été fait. Mais pour que cette organisation-là elle fonctionne, et notamment chez nous, si on voulait la reproduire, il y a deux choses importantes qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que chacun déjà doit être attentif aux tâches qui n'ont pas été remplies par les autres. Chacun doit être à l'écoute de regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour se trouver une occupation, et puis quand il trouve quelque chose, il le fait. Et la deuxième chose, c'est que chacun doit aussi faire confiance au reste du groupe, à toutes les autres personnes autour de nous, pour faire de même, et puis faire confiance aux autres pour se dire qu'ils vont s'attribuer aussi des tâches sans qu'on ait besoin de venir les pousser. Et ces deux principes, ils sont très importants pour nous, je pense. Le premier, d'ailleurs, il est au centre de la leçon que donnait Salomon dans le livre des Proverbes, puisqu'on voit qu'il s'adresse au paresseux, celui qui ne veut pas prendre de tâches, celui qui ne veut pas prendre de travail. Et qu'il est en train de lui dire, mais non, fais comme les fourmis, là. Dès que tu trouves quelque chose à faire, il va falloir aller le faire. Ça ne va pas être possible de fonctionner ensemble dans le groupe s'il y en a qui préfèrent se reposer sur les autres et qui ne veulent pas justement prendre de responsabilité. Le deuxième principe, celui de faire confiance à tous les autres, c'est parce que si personne ne dirige le groupe, le travail peut se faire efficacement que si tout le monde joue le jeu. Mais puisque personne ne dirige le groupe, je ne peux pas compter sur quelqu'un pour aller vérifier que chacun fait son travail. Donc j'ai plus qu'une seule solution, c'est de faire confiance aux autres, de me dire, je sais qu'on a tous le même but, on va tous dans la même direction, donc forcément on est tous motivés pareil, on va tous agir pour ça. Et vous voyez bien que quand je vous décris les choses comme ça, vous commencez à comprendre pourquoi ça a du mal à fonctionner chez nous. Pourtant, ça existe quand même. Et on peut appliquer ces principes dans l'Église. D'ailleurs, ça a déjà été fait depuis le tout début, parce qu'au début, avant de repartir, Jésus il a donné une mission aux disciples qui avait l'air quand même assez compliquée, assez importante. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Là, devant lui, il a un groupe de quelques personnes, il devait y avoir au moins les disciples, mais probablement aussi d'autres personnes qui suivaient Jésus. Mais même ce tout petit groupe-là, leur confier la tâche d'évangéliser la terre entière, c'est quelque chose d'énorme. Comment vous voulez vous organiser, en particulier à l'époque, pour une tâche aussi importante que ça ? Ça va être difficile de coordonner toute la foule des premiers disciples, puis des croyants qui vont se rajouter, pour remplir ce but-là. Et à combien plus forte raison à l'époque, où ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui ? Il n'y en avait pas un qui pouvait envoyer un WhatsApp pour dire « Bon, ça y est, on a la réunion qui va se faire chez Pierre ce soir-là, donc tous ceux qui êtes dans le coin, vous venez. » Non, à l'époque, ils étaient un petit peu chacun de leur côté. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est comme ça que dans l'expérience que je vous ai décrite au début, le chercheur a amené les gens à se comporter comme les fourmis. Et il leur a dit « Maintenant, vous avez interdiction de communiquer entre vous. Voilà la tâche qu'il y a à faire pour le groupe. Chacun, débrouillez-vous de votre côté pour le faire. » Et parce qu'ils ne pouvaient plus communiquer, ils ont dû mettre en place autrement. Et c'était un petit peu la problématique qu'avaient les disciples au début. C'est que dès qu'ils ont commencé à se répandre, ils ne pouvaient plus aussi bien se coordonner que quand on est tout un petit groupe qui est soudé les uns à côté des autres. Et donc, en réfléchissant comme les fourmis, autant au niveau individuel qu'au niveau même de chaque communauté, chaque église qui avait été implantée, les chrétiens des siècles avant nous ont réussi à faire progresser le royaume de Dieu en direction du but que Christ nous avait donné. Chacun s'est mis au service de sa communauté, de son église locale, en prenant en charge ce qu'il trouvait à faire. Et au final, ils ont juste appliqué un autre conseil que donne Salomon, c'est dans le dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 10, Salomon nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Dès que tu trouves quelque chose à faire, eh bien agis, attends pas que les autres s'en occupent. Et c'est de la même manière que les églises de l'époque ont aussi pris en charge toute l'expansion de l'église avec un grand E, l'église en général. C'est que chacune des petites églises qui avaient été implantées par un des apôtres, un disciple ou un des croyants qui avait voyagé dans ce coin-là, non seulement elles s'organisaient pour sa petite communauté locale, et puis après ils regardaient autour, mais cette région, il n'y a personne là qui est en train de prêcher là-bas. On va envoyer quelqu'un. Paul, quand il regardait, c'est « Ah, cette région-là de l'Asie, il n'y a encore aucune église qui est implantée, je vais y aller. » Bien sûr, il était guidé par Dieu, mais à la base, c'était ce genre de raisonnement-là, c'est de se dire « Tiens, là, il y a du travail, on va y aller, on va envoyer quelqu'un. » Et ça existe encore aujourd'hui parmi un certain nombre d'organisations missionnaires ou même de missionnaires individuels qui n'ont pas forcément besoin d'aller chercher, consulter toutes les dénominations, toutes les organisations missionnaires qui existent dans le monde pour trouver où est-ce qu'ils vont aller agir. Ils regardent, ils disent, mais tiens, telle population est encore, il n'y a pratiquement pas d'église dans cette région-là, et moi je vais y aller, je vais aller annoncer l'évangile là où elle n'est pas encore annoncée. Mais il faut dire que cette leçon, elle ne s'est pas imposée tout de suite aux disciples. Il y a eu un petit retard à l'allumage, un petit retard au démarrage. Et il a fallu que le Seigneur, vous me pardonnerez l'exception, il donne un petit coup de pied dans la fourmilière au début. Parce qu'ils avaient bien retenu que Jésus leur avait donné le début de la consigne dans Actes au chapitre 1, au verset 4. Il leur a dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Donc là, les disciples, ça, ils avaient bien compris. Ils sont restés à Jérusalem. Mais sauf que quelques versets plus loin, la consigne, elle s'étend. Et Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il semblerait qu'au début, ils ont eu du mal à basculer sur la fin de la consigne. Là. Il a fallu qu'ils soient un petit peu dispersés, notamment au travers de la persécution, pour que ça commence à lancer le travail. Mais une fois que c'était lancé, après, là, on a tout le récit des Actes des Apôtres, des lettres de Paul qui nous montrent comment les églises ont envoyé là où il y avait des besoins pour faire grandir le corps de Christ. Alors, cette vision-là de se dire que tout le monde va être au service de l'Église et au service de Christ, ça peut sembler un peu idéaliste. Et même si c'est un but auquel nous pouvons aspirer, puisque le Seigneur lui-même l'a donné en exemple, mais comme je disais, on voit aussi que dans la Bible, il y a de nombreux textes où Dieu a instauré une sorte d'organisation dans l'Église. Vous en avez un classique que vous connaissez, je pense, presque par cœur, dans Éphésiens au chapitre 4, dans les versets 11 à 13, où Paul dit « Il, donc le Seigneur, Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, etc. etc. » Donc Dieu a donné ces rôles-là pour faire grandir l'Église. Alors pourquoi est-ce que d'un côté, Dieu nous dit, regarde les fourmis, elles n'ont pas besoin de chef pour s'organiser et elles s'en sortent très bien. Et de l'autre, il nous dit, voilà comment vous allez organiser l'Église avec les différents rôles qui vont derrière. C'est parce que, comme dans beaucoup de domaines, d'un côté, vous avez la volonté parfaite de Dieu, la volonté idéale, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre, vous avez ces enfants qui sont imparfaits. Si on était tous parfaits, on pourrait se comporter comme des fourmis. C'est sûr, il y aurait toujours quelqu'un pour prendre toutes les tâches. Il y aurait toujours une église pour se lancer à évangéliser là où il y a des besoins. Et on n'aurait pas besoin de superviser, de pousser les choses. Sauf que nous sommes humains, et quand on dit humain en général, c'est toujours pour camoufler un petit peu ce côté négatif de dire on a des défauts. Et on a du mal à appliquer les deux principes que je vous ai donnés tout à l'heure. Déjà parce que nous-mêmes, on n'a pas toujours la consécration ou le dévouement là qu'il faut pour nous charger de tout ce qui reste à faire. Que dès qu'on voit une tâche, là, on va s'en saisir et puis on va la remplir. J'ai dit, cette organisation-là, elle fonctionne si tout le monde joue le jeu, mais malheureusement, on ne joue pas tout le temps le jeu. On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas prendre en charge des tâches qu'on voit devant nous. il y a nos différents défauts, il nous trouve toujours des excuses qu'il peut y avoir. Parfois, c'est ben, comme dans le texte des Proverbes, c'est la paresse, et donc du coup, on n'a pas trop envie de faire des efforts. Ça peut être l'égoïsme qui pousse certains à choisir les tâches qui vont vraiment leur bénéficier, ceux dont ils vont pouvoir tirer quelque chose, et puis le reste, ça, non, ça n'intéresse pas. Parfois, ça peut être de l'orgueil, se dire non, mais cette tâche-là, c'est pas de mon niveau. Moi, quand même, je mérite mieux que ça. J'ai un autre statut. Je vais pas aller m'abaisser à faire ce genre de truc. Et donc, ces différents défauts nous empêchent de vraiment appliquer ce principe de dire dès que je trouve quelque chose à faire, je vais le faire. Et la deuxième chose, c'est que ben, nos défauts, comme on est conscient de nos défauts, ben, ils nous poussent aussi à les suspecter chez les autres. Et que même ceux qui parfois sont bien disposés, bien motivés pour faire les choses, ben, au bout d'un moment, ils finissent par se dire « Mais j'ai l'impression d'être un petit peu le seul là, à faire les choses. Il n'y a personne d'autre qui s'en occupe. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me charger de tout ça ?» Et puis, ben, on perd un peu la motivation. On finit par se dire qu'on est un petit peu là, le dindon de la farce. Tout le monde se repose sur moi et puis moi, je fais tout pour les autres. C'est pas normal. Et du coup, ben, on va quand même relâcher un peu les efforts. Ou alors parfois, ben, justement, quand on ne fait pas confiance aux autres pour faire le travail, on va être un petit peu méfiant, on va les suspecter, on va vouloir surveiller. Qui c'est qui fait quoi, là ? Faire un petit peu le flic, entre guillemets. Ça, c'est pas du tout l'attitude que je vous ai décrite, de faire confiance aux autres et de dire, ben, c'est bon, tout le monde est impliqué dans l'œuvre de Dieu, on est tous unis, on fait tous la même chose. Et voilà, nos défauts, Il nous empêche de vraiment rentrer dans cette dimension-là. Et d'ailleurs, c'est un phénomène humain, encore une fois dans le même sens, hein, qui est très, très connu, pas que dans l'Église, hein, dans le monde entier. Il y a même un terme qui existe pour ça, c'est la tragédie des communs, ou la tragédie des biens communs. Je ne sais pas si certains l'ont déjà entendu. C'est un principe qui dit qu'en général, lorsque vous avez une responsabilité qui est partagée dans un groupe, et notamment bah, la gestion d'une ressource en particulier, la logique, ça voudrait que bah, tout le monde s'implique un petit peu pour bien gérer cette ressource-là. Et comme ça, tout le monde en profite. C'est bénéfique à l'ensemble du groupe. Sauf que bah, les hommes, en général, ils se comportent de manière égoïste. Et puis, ils tombent un peu dans un cercle vicieux qui va à l'encontre de cet intérêt qu'ils ont, qui est partagé. Ils vont chercher à s'accaparer au maximum ce qu'ils peuvent, soit parce qu'ils sont eux-mêmes avides, cupides, soit parce qu'ils se disent que les autres vont l'être et qu'avant que les autres aient tout piqué, il vaut mieux qu'eux, ils prennent leur part quand même. Et au final, ben parfois, on arrive à voir que quelque chose qu'on devait partager au sein du groupe, ben, les gens avaient tellement peur que les autres prennent tout qu'ils se sont comportés d'une manière qui a fait disparaître toute cette ressource. Un exemple tout simple que vous avez tous vu déjà plein de fois. Mettez une assiette de bonbons au milieu d'un groupe d'enfants. Comment ils se comportent ? Est-ce qu'ils vont s'organiser chacun ? Bon, allez, on va être équitable, chacun en prend un, chacun son tour. Et comme ça, tout le monde a le même nombre, personne n'est avantagé. Non, en général, c'est ils se jettent dessus à pleine main et puis ils se doutent que les autres vont en faire autant. Donc plus ils peuvent en prendre, plus ils en mettent dans les poches. S'il n'y a pas les parents pour dire non, ça suffit. Mais rigolez pas, hein, parce que les adultes à l'apéro, c'est pareil. Quand il y a l'assiette de saucisson qui passe, hein, on se contient un petit peu plus, on n'y va pas à pleine main, mais quand même, hop, on y revient suffisamment rapidement pour que les autres n'aient pas tout mangé avant nous, quand même, non ? Hein ? Et bien, finalement, on voit que ce qui devait être géré de manière raisonnable entre tout le monde, et bien, on le dilapide vite fait, et personne ne veut prendre la responsabilité de veiller à ce que ça soit équitable. On le voit en matière d'économie, d'écologie, mais on le voit aussi parfois dans l'Église. Christ nous encourage à nous mettre tous au service des autres sans rien attendre en retour. Mais notre chair, elle veut tirer le maximum de ce qu'on a en faisant le moins d'efforts possible. Et c'est pour ça que le monde, en général, il est obligé de répondre à ce genre de problème en déléguant des responsabilités, en instituant toute une organisation, en donnant la charge à certains de veiller à ce que les autres ne fassent pas n'importe quoi. Et c'est ce qui est apparu dans l'Église quasiment dès le début. Quand on lit dans Actes au chapitre 6, les versets 1 à 4, on voit que dès le début de l'Église, il y a commencé à y avoir un petit peu des jalousies et des, et des suspicions, parce qu'il nous est dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire ceux qui étaient d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Au sein de l'Église, il y avait de la solidarité. Et d'ailleurs, si vous lisez d'autres passages dans le livre des Actes, notamment au chapitre 2, on voit que l'Église rendait un bon témoignage à l'extérieur. Les gens étaient impressionnés de voir cette unité qu'il y avait entre les chrétiens, cet amour qu'il y avait entre eux. Mais ça n'a pas empêché que quand même, au sein de la solidarité qui se pratiquait dans l'Église, il y en avait certains qui se trouvaient désavantagés par rapport aux autres et qu'il a fallu qu'ils nomment des gens pour veiller à ça et s'assurer que tout le monde était traité de la même manière. Bon, là, je dresse un tableau un peu négatif en disant que c'est à cause un peu de nos défauts qu'on ne peut pas s'organiser comme les fourmis, mais il y a aussi un autre point qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'une autre chose parfois qui nous empêche de prendre n'importe quelle tâche qu'il y a devant nous, c'est pas forcément que notre mauvaise volonté, c'est aussi parce qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Dieu nous a tous créés spéciaux, différents, avec des talents différents, et on n'est pas tous de remplir toutes les tâches dans l'Église. Tout le monde n'est pas capable de jouer d'un instrument, tout le monde n'est pas capable de tenir les comptes d'une association, tout le monde n'est pas capable non plus de faire une prédication comme on le fait au sein de l'Église, même si on est tous amenés quand même à partager la parole de Dieu, à partager notre témoignage, etc. Mais voilà, il y a des niveaux différents parfois pour ça, et c'est pour ça que le Seigneur a désigné lui-même parfois des personnes à certains de ses rôles. Il l'avait déjà fait au temps du peuple d'Israël, dans l'Exode. Quand vous regardez, lorsque Dieu a donné à Moïse toutes les instructions pour construire le tabernacle et puis tous les ustensiles qui allaient avec, il lui a aussi donné des noms. Il lui a dit, telle et telle personne, je lui ai donné le talent qu'il fallait pour faire les sculptures, pour coudre ce qu'il fallait, pour assembler de manière harmonieuse tous les éléments là qui ont été décrits. Si vous le lisez dans Exode, au chapitre 31, bon, on va peut-être pas lire le détail, mais voilà, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, j'ai choisi Betsaléel, le fils d'Uri, de Hur, de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'esprit, je lui ai donné ce qu'il fallait comme intelligence, et puis j'ai désigné aussi Oliab pour l'assister, le seconder, et Dieu a donné comme ça certains rôles à certaines personnes. Mais j'aimerais vous dire de faire très attention à la façon dont vous utilisez cet argument-là. Parce que notre nature pécheresse, elle a envie d'utiliser cet argument-là en général comme une excuse. Notre chair, elle a envie de dire « Ah, ça, je ne peux pas faire, ça, c'est pour quelqu'un d'autre. » C'est sûr qu'on ne peut pas tous remplir toutes les tâches, mais l'attitude spirituelle, ce n'est pas d'essayer de trouver quelle tâche je peux exclure. L'attitude spirituelle, c'est de chercher quelles sont les tâches que moi, je peux faire. C'est plus facile en général de se dire « Non, moi je vais faire par élimination ça, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour un autre, ça il y a quelqu'un qui le fera mieux de moi, ça, non, j'ai passé l'âge, et puis j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes loisirs. » Là, les excuses pour éliminer des tâches, on n'a aucune difficulté à les trouver. Mais si on revient à cette attitude des fourmis, elles ne se demandent pas ce qu'elles peuvent pas faire, elles se demandent ce qu'elles peuvent faire. Et lorsque nous considérons ce qu'il y a à faire au sein de l'Église, il ne faut pas qu'on ait cette attitude charnelle de dire « Hop, j'élimine tout ce que je peux et puis je prendrai ce qui reste à la fin. » Parce que quand on fait comme ça, souvent on finit avec « Ah, il n'y a plus rien. Bon, je vais m'asseoir sur ma chaise et puis je vais profiter du culte. » Non, l'attitude spirituelle, c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'il y a à m'apporter? Qu'est-ce qu'il y a à faire et que moi je peux faire ?» Et ça veut dire que parfois, il y a certaines tâches que je vais trouver qui ne correspondent pas aux critères que moi j'aurais bien aimé. Mais ça n'empêche pas que je suis capable de les faire, ces tâches-là. Et je peux m'en charger comme les autres. Dieu nous a jamais dit qu'il attendait de nous qu'on choisisse la facilité. Dans Matthieu au chapitre 7, au verset 13 et 14, vous connaissez ces versets-là aussi, où Jésus dit « Entrez par la porte étroite, large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » C'est facile, d'aller vers la perdition. Il n'y a pas de difficulté. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire quelques efforts. Oh, c'est pas parce que nos efforts nous sauvent, ça. On a suffisamment insisté, je pense, pendant les chants, sur le fait que c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a fait grâce. Et à ce niveau-là, nous, il n'y a aucun effort à faire. Nos efforts ne vont pas nous permettre de nous racheter et d'entrer dans l'éternité. Si on est racheté, c'est parce que Dieu lui a fait l'effort pour nous. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous dit, ben, maintenant tu profites, t'inquiète pas, assieds-toi là. Moi j'ai tout fait, il n'y a plus rien à faire. Non, il a dit, moi j'ai fait ce qu'il fallait pour vous racheter, pour vous sauver. Et maintenant, entrez dans la destinée que j'ai pour vous, dans toutes ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors, c'est ma conclusion aujourd'hui, en fait, c'est que dans un monde idéal, c'est vrai qu'on serait tous capables de nous charger de toutes les tâches que le Seigneur met devant nous. Et on aurait tous ce même désir, comme des fourmis, de dire, moi je veux que ça avance, donc dès que je trouve quelque chose, je saute dessus, je le fais. Mais malheureusement, on voit que par l'expérience, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'avoir ce niveau de consécration. Alors, n'en faisons pas une excuse pour essayer d'éviter ça, mais au contraire, trouvons-y une occasion de dire à Dieu, mais donne-moi cette attitude, donne-moi ce dévouement, cet engagement pour me mettre à ton service, pour me mettre au service de ton corps, de l'Église. Le Seigneur, il a pourvu aux besoins de l'Église, il a donné tout ce qu'il y avait besoin. Donc forcément, s'il y a une tâche qui n'est pas remplie, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Dieu nous a donné tout ce dont on avait besoin. Donc ça veut dire que s'il y a une tâche à remplir, il y a quelqu'un qui a le talent pour le faire. Mais voilà, il faut que nous nous laissions pousser par l'Esprit, nous nous laissions conduire par l'Esprit pour dire, mais oui, cette tâche-là, mais moi je peux la faire. Il n'y a personne, ben, j'y vais. Alors efforçons-nous vraiment de chercher cette assistance-là du Saint-Esprit, cette aide du Saint-Esprit, cette direction pour ressembler un peu plus à ces fourmis et servir au mieux notre Église qui, pour l'instant, est imparfaite, pour l'instant, elle a besoin de cette organisation, de cette hiérarchie. En attendant ben, le jour où on sera enfin dans la gloire, on sera tous au même niveau devant Dieu. Et c'est cette attitude-là de chercher vraiment la direction de Dieu qui nous permettra alors de tendre vers ce même but. Et que même lorsque cette organisation, qui parfois nous rassure, hein, le fait de savoir qu'il y en a certains qui organisent et puis d'autres qui peuvent se contenter de suivre les ordres, parfois c'est rassurant. Enfin, il y en a certains qui aiment les responsabilités, mais il y en a certains parfois aussi qui aiment bien que ce soit les autres qui les prennent. Donc ça peut être notre attitude aussi, sauf que parfois ben, cette organisation-là, elle disparaît. Quand j'ai dit au début de l'Église, Dieu a mis un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, il a dispersé tout le monde, et quand ils se sont retrouvés dispersés, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur le fait qu'à cet endroit-là, ben c'est bon, il y avait déjà un pasteur en place, il y avait une église, et on peut se contenter d'écouter ce que le pasteur a à dire. Non, lorsqu'ils se sont retrouvés un petit peu éparpillés, dispersés à cause de la persécution, ben il a fallu qu'ils se prennent en main, il a fallu se dire, ben, ok, j'ai plus toute l'assemblée là de Jérusalem autour de moi, je ne peux plus me reposer sur eux, et ben, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça se produit encore chez nous, hein, parfois, pour quelqu'un qui se retrouve muté quelque part et puis qui se retrouve au milieu d'une zone où il n'y a aucune église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre que personne n'a pris en charge le travail, ou il va commencer à se dire, mais c'est moi qui suis un flambeau là, qui a été placé au milieu de cet endroit, cette zone d'ombre encore. Et bien, je vais commencer à briller, je vais commencer à témoigner, à évangéliser autour de moi. Ou ça peut être, comme dans certains pays parfois, parce qu'il y a la persécution, qui empêche les églises de s'organiser facilement, de communiquer facilement les unes avec les autres. Chacune est obligée de vivre un petit peu là, cachée. Et puis, ben, du coup, ben, elle s'organise en fonction de ce qu'elle trouve à faire autour d'elle. Nous sommes un petit peu avantagés, privilégiés de vivre dans un endroit où on a une église autour de nous, où on peut facilement se retrouver, on n'est pas persécuté comme ça. Mais n'oublions pas que si un jour ça se produit, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, que nous puissions avoir vraiment cette motivation de dire à Dieu, mais aide-moi à me comporter comme une fourmi. Aide-moi à regarder qu'est-ce qu'il y a à faire devant moi. Aide-moi aussi à débarrasse-moi un peu de tous les œillères parfois qui m'empêchent de voir certaines tâches, ou les excuses qui me permettent d'en éviter, mais au contraire, que lorsque je vois quelque chose à faire, je puisse me charger de ça et le faire. J'ai beaucoup aimé le témoignage de notre frère parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Lorsqu'il s'est retrouvé sans travail, il ne s'est pas dit je vais rester assis, je vais attendre que Dieu m'envoie un travail. Pour certains, parfois, c'est ça. Non, mais je me laisse guider par Dieu, donc j'attends qu'il fasse tout. Non, lui, il s'est dit, tiens, il y a l'église ici qui a besoin d'aide, je vais y aller donner un coup de main. Et Dieu a pourvu, merci Seigneur. Eh bien, que nous aussi, nous puissions avoir cette même attitude, de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire pour toi? Montre-moi, ouvre-moi les yeux, et croyez-moi, il y en a des choses à faire. Il n'y a qu'à écouter les annonces à la fin du culte, vous verrez que des rôles à remplir dans l'église, il y en a. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire devant ces rôles-là? Est-ce qu'on va dire, je suis sûr que quelqu'un va se lever pour le faire, c'est bon, il n'y a pas besoin de moi? Ou est-ce qu'on va dire, moi je peux faire ça. Tiens, là il y a du ménage, tiens, là il y a besoin d'aider les animatrices. Ce n'est pas forcément des tâches qui demandent une grosse formation ou des compétences très, très poussées. Mais n'importe qui pourrait se lancer dans ces tâches-là. Eh bien, lorsque je vois toutes ces choses, que je puisse avoir cette attitude de dire, Seigneur, aide-moi à me charger de ce que tu mets devant moi. Tout ce que je vais pouvoir trouver à faire, eh bien, aide-moi à mettre à profit ma force pour l'Église, pour ton corps, pour ton royaume. Et c'est comme ça que l'Église va pouvoir continuer à grandir, à progresser et à se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que c'est vrai que nous sommes loin d'être à la hauteur de ces fourmis, nous sommes loin d'être aussi consacrés qu'elles pour nous lancer dans toutes les tâches qui sont devant nous. Mais je te remercie parce que toi, tu as pourvu à notre imperfection, tu as pourvu à nos besoins, tu as pourvu au fait que nous n'étions pas capables d'être aussi dévoués à ton service et tu nous as donné des solutions. Alors Seigneur, aide-nous vraiment à être attentifs à ta voix, Seigneur, à être suffisamment consacrés pour ne pas chercher constamment des excuses, mais au contraire pour avoir cette attitude spirituelle de chercher qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu places devant moi? Qu'est-ce qui est là à m'apporter? Et pour ne pas essayer de trouver des excuses ou évacuer toutes ces tâches-là, mais au contraire, me dire qu'à chaque fois que je vois quelque chose à faire devant moi, je vais pouvoir me lever pour le faire, Seigneur. Oui, Seigneur, je me mets au même niveau que tous les autres parce que je sais que pas un d'entre nous est meilleur vraiment que les autres. Pas un peut se prévaloir d'avoir toujours fait tout ce que tu lui mettais à faire. C'est vrai que nous avons tous failli à ce niveau-là. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous passés à côté de choses que tu nous as confiées. Mais aide-nous, Seigneur, à aller de progrès en progrès pour ne pas détourner les yeux, mais au contraire, saisir toutes les opportunités que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, toutes les occasions que tu mets devant nous, Seigneur, pour pouvoir nous impliquer pour toi et contribuer à l'avancement de ton règne pour ta gloire, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Amen.